Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes les plus courageuses de la planète, un texte d'Augustina Ordoqui, paru le 18 novembre 2024, dans Les Glorieuses. Les femmes courageuses, Iran. La résistance d'une étudiante contre l'obligation de porter le hijab a fait la une des journaux du monde entier. La jeune fille a enlevé ses vêtements devant la Faculté des sciences et de la recherche de l'Université islamique Azad, à Téhéran, Iran, le 2 novembre, et a été rapidement arrêtée. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'étudiante apparaît en sous-vêtements avant d'être arrêtée par des agents de sécurité. Amnesty International a demandé une enquête indépendante sur la manière dont la jeune femme a été traitée par les agents de sécurité qui l'ont arrêtée. Le gouvernement a depuis déclaré que la jeune fille, dont le nom a été publié sur les réseaux sociaux, mais sans être confirmé de manière indépendante par les agences de presse, est une personne perturbée et qu'elle reçoit un traitement. Les femmes luttent contre le régime depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a éclaté en septembre 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs parce que ses cheveux n'auraient pas été couverts correctement. France, le 23 octobre, Gisèle Pélicot a témoigné au procès de son ex-mari et de 51 autres hommes accusés de l'avoir droguée puis violée. Je voulais que toutes les femmes qui sont victimes de viols se disent « Madame Pélicot l'a fait, je peux le faire. Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux », a-t-elle déclaré. « On me dit que j'ai du courage. Ce n'est pas du courage, c'est de la volonté et de la détermination pour faire avancer la société. » Dominique Pélicot, son ex-mari, est en procès pour l'avoir drogué avec des calmants et avoir invité des hommes de leur village de Mazan, dans le sud de la France, à la violer pendant une dizaine d'années, alors qu'ils étaient mariés. Ils sont 51 co-accusés masculins dont la participation au viol a pu être établie grâce à des photos et des vidéos retrouvées sur l'ordinateur portable et le téléphone de Dominique Pélicot, même si l'on estime qu'il y a plus de 30 autres agresseurs non identifiés. Dominique Pélicot et plus d'une douzaine d'autres hommes ont plaidé coupables de viol, tandis que d'autres affirment avoir été trompés. Les accusés sont âgés de 26 à 74 ans. Le profil du violeur n'est pas celui du parking le soir très tard. Le violeur peut être aussi dans la famille, les amis, a déclaré Gisèle Pélicot. Arabie Saoudite. Dans une lettre ouverte, 130 joueuses de football professionnelles de 26 pays ont demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, d'abandonner son partenariat avec la compagnie pétrolière saoudienne Aramco à cause des violations des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, commises par le pays, ainsi que de sa contribution à la crise climatique. L'accord entre la FIFA et Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du pays, qui est contrôlée majoritairement par le gouvernement saoudien, a été signé en avril. Comme le contrat est en vigueur jusqu'à la fin de 2027, Aramco sponsoriserait non seulement la Coupe du monde masculine de 2026, mais aussi la Coupe du monde féminine de 2027 au Brésil. Des joueuses professionnelles, dont Jessie Fleming, capitaine de l'équipe nationale canadienne, et Becky Sauerbrunn, ancienne capitaine des États-Unis, ont déclaré que ce partenariat affectait le football féminin. En Arabie Saoudite, l'homosexualité est criminalisée et la tutelle masculine sur les femmes est inscrite dans sa loi sur le statut personnel. Les autorités saoudiennes ne bafouent pas seulement les droits des femmes, mais aussi les droits de toutes les autres citoyennes. Imaginez que des athlètes LGBTQ+, dont beaucoup sont des héroïnes de notre sport, doivent promouvoir Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale d'un régime qui criminalise leurs relations et les valeurs qu'elles et ils défendent pour la Coupe du Monde 2027. Politique et économie. US. Les États-Unis ont élu Donald Trump à la présidence lors des premières élections générales depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe v. Wade, qui protégeait le droit à l'avortement dans le pays. En tant que président, Donald Trump a nommé les trois juges de la Cour suprême qui ont fourni la majorité requise pour renverser Roe v. Wade. Même si Trump a souligné qu'il n'était pas favorable à une interdiction fédérale de l'avortement, lors d'un débat présidentiel en septembre, il a refusé de dire qu'il opposerait son veto à une telle interdiction si elle était adoptée par le Congrès. Toutefois, les élections ont donné des résultats positifs en ce qui concerne plusieurs mesures relatives à l'avortement. 7 des 10 États où l'accès à l'IVG était en jeu, ont voté en faveur de l'élargissement des droits reproductifs. Il s'agit de l'Arizona, du Colorado, de New York, du Maryland, du Missouri, du Montana et du Nevada. Néanmoins, des mesures similaires ont été rejetées en Floride, où l'interdiction des 6 semaines de grossesse restera en vigueur, ainsi qu'au Nebraska, et dans le Dakota du Sud. Vous écoutez « Les femmes les plus courageuses de la planète », un texte d'Augustina Ordoqui, paru le 18 novembre 2024 dans Les Glorieuses. Droits des personnes LGBTQIA+, Irlande. Le projet de loi 2022 sur la justice pénale, infraction motivée par la haine, a été adopté le 23 octobre par le Parlement irlandais avec 78 voix pour et 52 contre et va maintenant être promulgué. La nouvelle législation prévoit des peines d'emprisonnement plus sévères pour les crimes de haine sur la base de la race perçue, la couleur de peau, la nationalité, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, le handicap, le genre, y compris les identités trans et non-binaires, les caractéristiques sexuelles et l'orientation sexuelle. À l'origine, le projet faisait également référence à l'incitation à la violence et à la haine, mais ce terme a été supprimé au cours du processus législatif en raison d'un prétendu manque de consensus. Italie. Le Parlement italien a approuvé une loi interdisant aux couples d'avoir des enfants via la gestation pour autrui, GPA, à l'étranger, et imposant des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et des amendes d'1 million d'euros. Le vote au Sénat, avec 84 voix pour et 58 contre, a eu lieu le 16 octobre. Le projet de loi a été proposé par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, avec le soutien de la première ministre Giorgia Meloni. La GPA, au niveau national, était déjà interdite en Italie. Alors que la nouvelle législation ne fait aucune distinction entre les couples hétérosexuels et les couples de même sexe, elle suscite une inquiétude particulière au sein de la communauté LGBTQIA+, étant donné que le mariage homosexuel n'est pas légal dans le pays et que les couples de même sexe ne sont pas autorisés à adopter des enfants ou à reconnaître un enfant conçu par leur partenaire. La loi affectera également les personnes ayant des problèmes de fertilité. Kenya, une enquête de la Fondation Thomson Reuters a révélé que le commissaire aux réfugiés du Kenya ne considère pas la persécution sur la base de la sexualité ou du genre comme une raison valable pour demander l'asile, ce qui retarde les dossiers des demandeurs LGBTQIA+. Avec plus de 770 000 demandeurs d'asile, le Kenya est l'un des principaux pays d'Afrique à accueillir des réfugiés qui sont considérés par la législation actuelle comme des personnes fuyant une agression ou une persécution sur la base de la race perçue, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Bien qu'il n'existe aucun chiffre concernant les demandeurs d'asile LGBTQIA+ au Kenya, l'ONU estimait en 2021 qu'il y en avait 1000, un nombre qui a probablement augmenté depuis que l'Ouganda voisin a adopté une loi draconienne contre l'homosexualité. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le pays est considéré comme sûr pour les réfugiés ougandais ou ougandaises avec 3 978 demandeurs en mai 2024, même si le nombre de personnes dont la demande a été traitée pour cause de persécution sexuelle ou sexiste n'ait pas été précisé. Plus d'infos dans le monde. Afghanistan. En août, le régime taliban a interdit aux femmes de chanter, de lire à haute voix ou de parler dans les espaces publics. Cette fois, il est allé plus loin en leur interdisant de prier à haute voix ou de réciter des textes religieux devant d'autres femmes. Cette nouvelle restriction a été annoncée par le ministère de la Propagation de la Vertu et de la Prévention du Vice à la fin d'octobre. Il est interdit à une femme adulte de réciter des versets coraniques ou d'effectuer des récitations devant une autre femme adulte, a déclaré le ministre Khalid Hanafi. Les femmes et les jeunes filles afghanes sont confrontées de plus en plus à des restrictions, y compris l'interdiction de regarder ou de fréquenter des hommes qui ne sont pas des parents ou des maris, et d'utiliser seules les transports publics. Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, il y a 3 ans, ils ont publié plus de 70 édits, directives et décrets qui privent les femmes et les jeunes filles de leurs droits fondamentaux, notamment le droit d'aller à l'école, de travailler ou de voyager sans la présence d'un tuteur masculin. Brésil. Les anciens policiers Ronnie Lessa et Elcio de Queiroz ont été condamnés respectivement à 78 et 59 ans de prison pour l'assassinat de la conseillère municipale et militante pour les droits humains, Marielle Franco. Marielle Franco était une femme féministe, bisexuelle, noire et mère, qui avait grandi dans le bidonville de Marais. En 2016, elle a été élue conseillère municipale du Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, à Rio de Janeiro. Elle et son chauffeur, Anderson Gomez, ont été tués le 14 mars 2018. Elle avait 38 ans. Après sa mort, Marielle est devenue un symbole des droits afro-brésiliens et LGBTQIA+ au Brésil. Ronnie Lessa, l'un des hommes condamnés, a avoué pendant le procès qu'ils avaient été payés par des chefs de milice de Rio de Janeiro pour tuer Franco, car ils craignaient qu'elle les empêche de continuer leurs activités illégales. Nous ne nous arrêterons pas ici. En 2018, j'ai dit que j'honorerais le sang et la mémoire de ma sœur. Nous allons nous battre, pas seulement pour Marielle et Anderson, mais aussi pour un projet auquel nous croyons, a déclaré Agnelle Franco, la sœur de Marielle, qui est aujourd'hui ministre de l'Égalité raciale. Lorsqu'ils ont assassiné ma sœur de 4 balles dans la tête, ils ne pouvaient pas imaginer la force avec laquelle ce pays se soulèverait. Haïti. les enfants haïtiens sont ciblés et recrutés par des gangs et des groupes criminels qui les forcent à participer à des activités illégales et leur infligent des abus sexuels. D'après l'UNICEF, les groupes criminels contrôlent près de 80% de la capitale Port-au-Prince et un demi-million d'enfants vivent sous leur contrôle. Human Rights Watch estime que plus de 30% des membres de groupes criminels sont des enfants qui sont impliqués dans des activités telles que des extorsions, des pillages ou même des meurtres et des enlèvements. Parmi eux, les filles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles. Si les filles sont souvent exploitées comme main-d'œuvre et affectées à des tâches de cuisine et de nettoyage dans les maisons où vivent les chefs et les membres des groupes criminels, elles sont également chargées de faire des courses et de transporter des armes et des munitions. Depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021, le pays est confronté à une détérioration de la situation politique et économique et à une augmentation de la violence des gangs. L'année dernière, 5587 cas de violences sexistes, y compris des viols collectifs, ont été signalés dans le pays, soit une augmentation de 50% par rapport à 2022. C'était « Les femmes les plus courageuses de la planète », un texte d'Augustina Ordoqui, paru le 18 novembre 2024 dans Les Glorieuses.
Le squat de luxe en sursis. Un texte de Marco Fortier paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir. L'histoire rocambolesque du squat de luxe aménagé dans une usine abandonnée de Montréal vient de connaître un nouveau rebondissement. Trois inspecteurs municipaux, vêtus de combinaisons blanches de protection, ont visité mercredi le 8 janvier 2025 le luxueux studio construit clandestinement au milieu des débris. Tout indique que ce projet artistique subversif, qui a pris vie grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada, est en sursis. « Je suis convaincu que la chambre sera défaite », dit en soupirant Marc-Antoine Goyette, un des artistes ayant aménagé cette pièce ultra-chic de style victorien qui contraste avec le fatras régnant dans le vaste immeuble désaffecté du sud-ouest de Montréal. Présent par hasard, le militant à l'origine de ce coup d'éclat a guidé les inspecteurs dans les méandres du bâtiment couvert de graffitis et en partie démoli. Il a guidé les représentants de la ville et d'une firme chargée de barricader les lieux dans la pièce savamment dissimulée. Un photographe du Devoir a pu suivre la visite guidée. Marc-Antoine Goyette et son collègue Gabriel Lacombe ont aménagé ce logement 100% subventionné dans cette propriété de la ville de Montréal pour attirer l'attention sur la crise de l'habitation. Les militants déplorent que cette ancienne usine de fabrication de bateaux désertée depuis plus de 10 ans reste à l'abandon pendant que des gens vivent dans la rue. Les gars de la ville ont fait la job de gars de la ville en me disant qu'on n'a pas le droit d'être là, que ce n'est pas légal et pas sécuritaire. On le sait que c'est insalubre, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on peut faire des travaux temporaires pour loger des gens ici en attendant qu'un projet immobilier soit construit? Lance Marc-Antoine Goyette. Accès interdit. La Ville de Montréal rappelle que des discussions ont lieu avec Sid Lee Architecture, qui a remporté un concours en 2021 en vue de reconvertir l'immeuble en vaste projet immobilier. D'ici là, aucune occupation provisoire des lieux n'est envisagée malgré l'ouverture de la firme d'architecture à ce sujet. La démolition du squat de luxe n'est pas non plus prévue à l'heure actuelle, selon la Ville. Ce bâtiment est vétuste et présente des conditions dangereuses, effondrement de sections de toiture, moisissures, amiante, etc. L'occupation de ce bâtiment n'est donc pas autorisée et elle est également interdite. les accès sont condamnés et une signalisation sur place indique clairement que l'entrée est interdite et que l'endroit présente des dangers, indique Gonzalo Nunez, porte-parole de la ville. Des interventions sont réalisées pour refermer des brèches causées par des personnes non autorisées. Lors de nos dernières visites en 2025, toutes les brèches ont été refermées, précise-t-il. Marc-Antoine Goyette affirme entrer dans le bâtiment avec une facilité déconcertante, malgré le renforcement des barricades. Il a lui-même indiqué aux représentants de la ville comment entrer dans l'immeuble. La puissance de l'art engagé. Julie Faubert, professeure à l'École d'art de l'Université Laval, déplore que l'accès aux squats de luxe soit interdit. Elle accompagnait Marc-Antoine Goyette lors de la visite guidée. Elle a contacté le militant après la publication du reportage du Devoir sur ce projet artistique hors de l'ordinaire à la fin du mois de décembre 2024. « Je vais faire étudier ce cas à mes étudiants. C'est un projet inspirant qui fait réfléchir à la puissance de l'art engagé », dit la professeure. Elle est impressionnée par la détermination des deux militants à l'origine de ce coup d'éclat. La spécialiste de l'art contextuel, qui sort des lieux habituels de diffusion pour s'insérer dans des espaces publics, verrait bien ce studio devenir une exposition temporaire une fois l'accès à la pièce sécurisé. Ces artistes ne sont pas des idéalistes, mais plutôt des réalistes, dit-elle. On vit dans le monde de la finance qui ouvre la voie à la crise du logement. C'est une société du déni. La crise existe et le squat permet d'en prendre conscience. Il y a une certaine hypocrisie de la ville. C'était Le squat de luxe en sursis, un texte de Marco Fortier paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir.
Les moutons de Biquette débarquent en ville. Un texte d'Émilie Côté, paru le 26 mai 2024 dans la presse. Venez les cocos, lance Annie Cloutier, alors que 12 moutons débarquent d'une remorque pour aller croquer à pleines dents dans des trèfles et des pissenlits. Quelle aventure, s'exclame celle qui est l'une des responsables de l'organisme Biquette Éco-Pâturage. La scène est aussi attendrissante qu'inhabituelle. Nous ne sommes pas au milieu d'un champ, mais au parc Armand Bombardier de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est le plaisir d'avoir de la campagne en ville, ne pourrait mieux illustrer le bénévole Mathieu Ménard. De plus en plus connu des Montréalais, les moutons de Biquette sont arrivés à Montréal mardi matin après avoir quitté la ferme Berthe Rousseau à Durham Sud, dans les Cantons de l'Est. C'était la première fois que Denis Rondeau transportait des animaux de ferme dans l'île de Montréal. Il va revenir à la fin du mois de juin pour le déplacement du troupeau au parc Maisonneuve, où Biquette a son repère depuis plusieurs étés avec des poules et un potager. Les moutons ne sont pas qu'une simple source d'agrément. En broutant et en ruminant, les bêtes font de l'éco-pâturage. En d'autres mots, elles sont une solution de rechange écologique aux tondeuses pour entretenir des espaces verts. L'éco-pâturage écrase moins le sol que les tondeuses et le fertilise. C'est moins bruyant pour les oiseaux, selon Mathieu Ménard, bénévole. Des bénévoles fidèles au poste. Les quelques 150 bénévoles de Biquette se relaient au parc de 9h à 19h. Avec leur bâton de berger ou un balai, ils veillent à ce que les moutons restent ensemble et ils s'assurent de leur bien-être. Ils s'occupent aussi de l'entretien de la bergerie et de son approvisionnement en foin pendant la nuit. Michel Brisson fait du bénévolat depuis une dizaine d'années, notamment au sein de banques alimentaires. « Histoire de s'occuper, dit l'homme retraité. Je ne pensais jamais un jour m'occuper de moutons. » Michel a eu une formation et moins de 24 heures plus tard, il était entouré de têtes frisées au parc Armand Bombardier. Quand on fait du bénévolat, il faut être ouvert d'esprit. C'est mon chum Richard qui m'a dit « Viendrais-tu garder des moutons ?» C'est zen, vante justement Richard. C'est beau de voir les gens s'arrêter et de voir que les moutons rendent leur journée spéciale. Mathieu Ménard se souvient encore de la première fois qu'il a aperçu les moutons de Biquette au parc Maisonneuve. C'est improbable et magique, dit-il, de partager avec d'autres gens l'émerveillement de croiser des moutons en ville. Comme bénévole, il aime éduquer les gens curieux à propos de l'éco-pâturage et il affectionne le contact apaisant avec les animaux. On apprend à connaître les moutons avec leur petite personnalité, explique-t-il. Comme beaucoup de bénévoles et d'employés de Biquette, Charlotte Leclerc l'est devenue par hasard, en chemin pour un cours au Cégep Maisonneuve. En voyant les moutons, elle a eu une sorte de révélation. Elle a passé le reste de la journée et celle du lendemain avec eux. Aujourd'hui, elle est l'une des bergères responsables. Recherchiste de métier, Annie Cloutier a quant à elle suggéré à sa fille de devenir bénévole pour Biquette avant de donner un coup de main à son tour. De fil en aiguille, elle est devenue une employée phare de Biquette et une véritable agricultrice urbaine. Un grand attachement s'est créé envers l'équipe et les moutons, dit la femme au grand cœur. Il faut savoir que les moutons appartiennent à la fondatrice de Biquette, Marie-Ève Julien-Denis, mais que cette dernière souffre de la maladie du poumon du fermier. Appel à tous. L'équipe de Biquette cherche une ferme, idéalement dans le Grand Montréal, où les moutons pourraient passer l'hiver. Ce serait plus pratique pour les bénévoles qui continuent d'en prendre soin. Et l'OBNL pourrait organiser des visites éducatives et scolaires dont les revenus permettraient de pérenniser son existence. Tous les arrondissements et les institutions qui ont de grands terrains à entretenir peuvent demander à Biquette si ses moutons peuvent y passer du temps. Il est aussi question de projets de recherche avec des étudiants, ajoute Annie Cloutier. Sachez qu'on peut soutenir les activités de Biquette éco-pâturage en achetant des granulènes, soit de l'engrais fabriqué par les Laines Findor, un éleveur et producteur de laine situé près de Sherbrooke. Biquette lui remet une partie de sa laine et celle, qui est souillée et de mauvaise qualité, sert à faire des fertilisants. Les granulènes contiennent plus d'azote que de l'engrais de poule, souligne Annie Cloutier. C'était « Les moutons de Biquette débarquent en ville », un texte d'Émilie Côté paru le 26 mai 2024 dans La Presse.